écouter les programmes du studio Kalangou. Messieurs, mesdames, bonsoir. Merci de suivre le journal de ce 17 février 2022. Le mot d'ordre de grève lancé pour la journée d'aujourd'hui par le collectif des secteurs des transports du Niger à Niamey a été levé hier soir après une rencontre avec le ministre des Transports. Le président du collectif revient sur les revendications dans ce journal. Le district sanitaire de Birnin-Konyi, région de Tawa, a lancé cette semaine une campagne de vaccination suite à la notification des cas de rougeole dans le département. À suivre les détails dans ce journal. En partie magazine, vous suivrez la gestion partagée de la réserve de Gadabeji qui abrite des espèces animales protégées. Au micro, le collectif des syndicats du secteur des transports du Niger a lancé hier un mot d'ordre de cessation d'activité pour la journée de ce jeudi. Seulement, le mot d'ordre a été levé hier nuit à l'issue d'une rencontre entre le collectif et le ministère des Transports. Moussa Nobila, président du collectif, revient sur les revendications des syndicats, propos recueillis par Rukayatou Abdraman.
Le syndicat Warankachinda Haku, il ne préavis.
Notre collectif de 28 syndicats avions déposé un préavis de grève d'avertissement de 48 heures. Hier, le ministre des Transports nous a reçus pour négocier notre plateforme revendicative. Sur les 11 points inscrits, 2 ont été pris en charge par le ministre. Il s'agit de l'interdiction aux tricycles d'exercer dans toutes les villes du Niger, ce qui évitera aux taxis et minibus la concurrence déloyale qu'ils subissent de leur part. Ensuite, vous savez, il y a peu de temps, les propriétaires et conducteurs de taxis ont eu un malentendu avec la Caisse nationale de sécurité sociale qui a confisqué les papiers de plus de 400 véhicules, exigeant la souscription des chauffeurs à la caisse ordinaire. Pour les autres points, le ministre a pris l'engagement de les soumettre en conseil des ministres et de nous faire le point le 1er mars prochain au cours d'une rencontre. C'est pour ces raisons que nous avons levé la grève en informant nos militants de l'issue de la rencontre.
Après un dîner de travail à l'Élysée hier, auquel on prépare une trentaine de dirigeants africains, européens et le Canada, la France et ses partenaires ont annoncé ce jeudi 17 février le retrait de leurs forces militaires du Mali après 9 ans d'intervention contre les djihadistes. Néanmoins, entre 2500 et 3000 soldats français resteront déployés dans le Sahel, rapporte le site de Radio France Internationale. Selon la même source, les pays signataires ont convenu de poursuivre leurs actions contre le terrorisme au Sahel et dans le golfe de Guinée, des pays devenus des priorités de la stratégie d'expansion des groupes terroristes, a déclaré le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse aujourd'hui. Dans le département de Birnin-Konyi, les services de santé viennent de recevoir notification des cas de rougeole. Aussitôt, le district sanitaire de la localité a débuté une campagne de vaccination contre la maladie. Ousmane Abdoulmoumouni, communicateur du district sanitaire de Birnin-Konyi, explique la situation au micro de Assoumane Moussa Arzika.
Aujourd'hui, par rapport à cette situation de rougeole, nous pouvons dire que c'est depuis l'approche de la fin de la saison froide qu'elle a commencé à apparaître. C'est dans les zones de Tcherassa, Boulke, Kirba, Baba Dolé, jusqu'à vers Dossey. Ce sont les petits-enfants qui sont atteints. Fort heureusement, très vite, nous avons pris les dispositions idoines. Nous les avons visités et nous avons effectivement constaté que c'est la rougeole. Les enfants atteints ont été traités, ceux qui ne le sont pas, dans les villages environnants. À l'heure actuelle, nous sommes en train de les vacciner village par village et même dans les écoles. Tous les enfants de 6 à 14 ans sont en train d'être vaccinés.
Hier, les syndicats des transporteurs de marchandises du Niger et du Bénin se sont retrouvés à Gaya au menu des discussions. Comment trouver des solutions à leurs problèmes? Ramatou Issa Wanké, notre correspondante, a assisté à la réunion.
L'objectif de cette réunion vise à redynamiser les échanges entre les deux pays et trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les transporteurs sur les deux frontières, a déclaré Ali Hassan Gabouni, président du collectif des transporteurs routiers de marchandises du Bénin.
Nos problèmes sont antérieurs à COVID-19. Depuis 2016, nous avons vu que le tarif de transport que nous pratiquons entre le Bénin et le Niger est en train de tomber. Aujourd'hui, nous roulons à perte. Il va falloir que nous corrigions le tir. De 16 à 6, nous allons relancer comme nous vous avons dit.
Les transporteurs nigériens se plaignent entre autres de la concurrence déloyale entretenue par des hommes politiques, souligne Alhaji Himadou Barkere, secrétaire général du syndicat des transporteurs gros porteurs du Niger.
Nous avons constaté que sur les frontières du Niger, dans les départements et les régions, les agents de la Caisse nationale de sécurité sociale et ceux des services de dépôt ont érigé plusieurs postes de contrôle où ils interceptent les chauffeurs et confisquent leurs documents de voyage. Des actes qu'on ne voit jamais dans les pays frontaliers. Or, le contrat juridique de transport de marchandises et autres émanant de l'État, les politiciens s'arrangent toujours à les octroyer à leurs militants. Donc nous ne gagnons même pas de quoi nous mettre à jour par rapport à ces papiers. C'est sur de telles préoccupations que nous allons discuter avec nos confrères béninois pour leur trouver des solutions.
À la fin de la rencontre, plusieurs décisions ont été prises qui vont améliorer les conditions de vie des transporteurs routiers.
La clôture de la 4e édition de la foire des maraîchers d'Agadez, initialement prévue ce jour 17 février à la place Toumo de Niamey, est reportée au 15 mars prochain. Cette année, plus du quart des produits exposés par les maraîchers n'ont pas trouvé preneur faute de clients. Selon le vice-président des maraîchers, ils prolongent d'un mois la foire pour pouvoir écouler leur production. Jibril Abo au micro de Habibou Garba.
Au moins un quart de ce qu'on a amené, c'est gâté. Il y a les oranges, les mandarines, les pamplemousses, sont tous gâtés. Hein. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de clients. On va rester après le 17, on est là, parce qu'il y a une commande qui arrive.
Lors des éditions précédentes, les autorités achètent vos produits. Qu'en est-il de cette année?
Personne qui est venu acheter, pas encore. Même ceux qui vont acheter ne sont pas arrivés encore. C'est regarde, ça, oui. C'est pas du tout cher. On les vend à 700, 750, jusqu'à 650. Les pommes de terre, cette année, il n'y en a même pas. C'est les fruits qui sont gâtés. Il y a d'autres gâtés, d'autres, elles ont été secs. Je ne sais pas comment faire. On a beaucoup qui sont gâtés. Hein. Vraiment, on jette.
Le bilan global de la campagne agro-pastorale 2021 publié par le gouvernement nigérien il y a quelques jours fait état d'un déficit à vivre pour les personnes et du fourrage pour le bétail selon le coordinateur de la plateforme paysanne. Les populations commencent déjà à ressentir les conséquences à travers la cherté des céréales et d'aliments bétail sur certains marchés. Jibo Banya, coordinateur de la plateforme paysanne, suggère des solutions alternatives. Il est au micro de Soumana Adamou.
Quand vous prenez une analyse américaine, le Niger regorge la plus grande quantité en eau souterraine qui dépasse même le cumul de l'eau au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est véritablement un potentiel qui est là que nous devrions exploiter. Et pour l'exploiter, il faut qu'on retourne vers l'irrigation. On est en mesure aujourd'hui d'avoir des productions sur toute l'année, que ce soit du mil, du sorgho, du niépé, des légumes. Et on va même commencer à produire du fourrage à travers les cultures de contre-saison. On peut le faire. Il suffit tout simplement que l'État puisse véritablement apporter son soutien, que ce soit les semences, les intrants zootechniques ou que ce soit les intrants agricoles, doter aussi nos banques agricoles des moyens conséquents pour permettre aux producteurs d'accéder à des facilités qui vont leur permettre d'avoir les moyens de travail pour que véritablement on puisse faire des grandes productions.
C'était donc Jibo Banya au micro de Soumana Amadou. Au Niger, une personne sur deux n'a pas accès à l'eau potable pour pallier l'absence de cette couverture en eau. Certains citoyens décident de creuser un puits ou faire un forage dans leur concession. Ousmane Dambaji, président du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement Régia, nous édifie sur la procédure à suivre pour construire un puits dans sa maison. Il est au micro de Talata Abdou.
Quand vous avez besoin de faire un puits ou un forage en ville ou en campagne, il va falloir tout simplement de vous adresser aux services compétents, que ce soit le ministère, services hydrauliques régionaux ou départementaux, pour demander comment ça doit se passer. Parce qu'il ne s'agit pas de creuser ou de foncer un forage, mais il s'agit de savoir quelle eau potable nous allons consommer. Parce que si vous demandez l'expertise du ministère ou du service technique, on va tout simplement vous accompagner avec un technicien qui va analyser le terrain, qui va analyser l'eau, pour voir est-ce cette eau-là est potable pour la boisson ou tout simplement elle est potable pour l'arrosage ou de construction. Donc, on ne vous autorise pas totalement à aller sans demander le ministère compétent parce qu'on ne veut pas que ça nuise à votre santé. L'eau, elle est bien quand elle est potable, mais elle est porteuse de maladies quand elle n'est pas potable.
Au Niger, en plus de l'utilisation du plastique en emballage, les déchets plastiques sont aussi utilisés comme allume-feu dans certains foyers, une pratique dangereuse selon les spécialistes de l'environnement car la fumée dégagée par du plastique est nuisible à la santé humaine et animale. Mahamane Koulibaly Adamou, le directeur de cadre de vie et gestion des déchets au ministère de l'Environnement, explique au micro de Assoumane China.
L'emballage plastique peut être nuisible pour l'homme, mais aussi pour l'animal. En matière de microdose, vous avez vu maintenant, dans le marché, on vend tout à 100 francs, 50 francs, et on met dans quoi? Des plastiques blancs. Et chez nous, on sait que les animaux sont en divagation. Les vaches, les moutons, les chèvres, les trois types d'animaux qui sont ruminants, ils vont ingérer ça. C'est-à-dire que quand la chèvre touche à ça, elle goûte, c'est salé, elle va avaler, espérant ruminer, et elle va accumuler. Puisque c'est du plastique, ça va s'agglutiner dans son ventre. Elle ne peut plus ruminer. Le ventre va grossir et elle va continuer à manger. Tu vas voir l'animal, il a un ventre gros, mais il est maigre. Maintenant, pour la santé humaine, c'est le fait de faire le feu avec le plastique là. Généralement, les femmes le font. Quand tu fais le feu avec le plastique, il y a une fumée qui se dégage. Et cette fumée n'est pas bonne pour les poumons notamment et pour les yeux.
De ce côté, c'est la pièce théâtrale présentée hier soir au Centre culturel franco-nigérien de Zender par l'artiste d'origine congolaise Dieudonné Nyanguna devant un public composé d'étudiants. Son œuvre littéraire se nourrit en effet de la rue reposant sur un langage explosif et dévastateur à l'image de la réalité congolaise, a-t-il indiqué. On l'écoute au micro de Ali Keta après le spectacle.
S'intitule De ce côté, il met en exergue les problèmes qui sont liés à un comédien noir par rapport à ses prises de parole qui sont de ce qu'on pourrait appeler d'ordre du théâtre engagé, donc de la relation d'un artiste envers sa société, envers la gente humaine, comment il est un miroir, un témoin, un reflet, comme d'autres d'ailleurs, hein, pas que l'artiste, mais l'artiste, il utilise la scène ou d'autres supports pour mettre ça en exergue et évidemment, étant mis en exergue, il peut être des fois une cible trop facile à abattre. Donc c'est ce genre de problème qui va arriver à ce type de personnage dont on parle dans la pièce et qui s'appelle Dido. Et ces situations vont l'emmener évidemment à s'exiler. Sauf qu'en s'exilant en Europe, là-bas aussi il est stigmatisé. C'est pas partout qu'on a, en Afrique je veux dire, hein, qu'on a un public qui peut prêter l'oreille à des textes qui sont écrits et très très écrits et prêter l'oreille et faire confiance. C'est une grande félicité parce que le théâtre commence par l'écoute. Donc je trouve que c'est un public qui a félicité de Zender.
La partie magazine, la réserve biosphère de Gadebeji se trouve dans le département de Dakoro, région de Maradi. Cette réserve abrite des espèces animales protégées. Comment se fait la gestion de cette réserve? Mohamed Nawam, maire de Dakoro, interrogé par Adamu Umar.
La réserve de Gadebeji maintenant, c'est la commune qui s'occupe de sa gestion. Il y a une co-gestion que nous avons établie entre le ministère de l'Environnement et la commune. Une convention qui a été signée par les deux parties. Le projet Corridor, en partenariat avec l'unité de gestion de la réserve, coordonne les activités. Et toutes ces activités sont menées avec la mairie. À l'arrivée des animaux transférés, nous avons recruté trois éco-gardes issus de la population qui font des rondes, servent des guides pour appuyer les responsables de l'environnement, car eux, ils sont de la zone, ils connaissent bien tous les passages. À l'arrivée également des girafes, nous avons encore recruté deux autres éco-gardes. Nous avons cinq personnes de la commune qui appuient le responsable de l'environnement. C'est une gestion communautaire. Ce sont les populations qui ont la même mise sur la gestion. Les responsables de l'environnement ne font que les encadrer techniquement. Sinon, la surveillance, la gestion revient à la population.
La pratique de la chasse a-t-elle diminué?
Le braconnage, je peux dire qu'il y a une diminution. En tout cas, celle connue auparavant n'est plus. Seulement, il y a une nouvelle forme de braconnage qui se pratique avec des motos ou des voitures qui pourchassent les animaux, à l'exemple de la gazelle qui est poursuivie jusqu'à ce qu'elle s'essouffle et la capture. Et même cette pratique est relativement réduite suite à la contribution apportée par les populations. Nous avons mis en place 11 comités dans tous les villages situés aux environs de la réserve. Ils sont chargés du contrôle et qui tirent la sonnette d'alarme d'une situation de braconnage observée. Ils portent même l'attention sur les autres réserves contiguës. Nous avons établi une convention avec Adarbisnat et Tanout. Tous les animaux récupérés en vie sont transférés à Gadebeji. De Adarbisnat, nous avons reçu 4 fois des animaux et 2 fois de Tanout. En majorité, ce sont des gazelles. Vous avez entendu que des animaux ont été transportés par bus en provenance de Zender. C'est notre véhicule qui est parti et les a acheminés ici à Gadebeji. Tous les animaux récupérés aux environs de Maradi, à Gadez, Zender, sont acheminés dans la réserve de Gadebeji. Par exemple, une gazelle qui est poursuivie et qui n'a pas été prise par les braconniers, mais blessée, elle est récupérée et soignée. La mairie assure le carburant pour le transport. Certes, c'est insignifiant, mais quand même cela mérite d'être souligné. Une contribution, quelle qu'en soit sa nature, elle est significative.
Et c'est la fin de ce journal. À 18h15, vous suivrez le forum qui a pour thème « Comment se porte le cinéma nigérien » avec Michel Deji.